Aujourd'hui, nous recevons donc Monsieur Boniface. Monsieur Boniface, vous êtes né le 25 février 1956. Vous avez des diplômes d'études approfondies de droit public et d'études politiques. Vous êtes docteur d'État en droit international public. Vous êtes directeur aujourd'hui de l'Institut des relations internationales et stratégiques, enseignant aux instituts d'études politiques de Lille et de Paris et consultant sur les questions internationales et de défense à la Sofres. Vous êtes donc un spécialiste en droit international et public et des questions, des problèmes internationaux. Vous avez écrit et dirigé une trentaine d'ouvrages sur les problèmes internationaux. Je vais citer parmi ces ouvrages « La volonté d'impuissance » publié en 1996, « Géopolitique du football » en 1998, « La France est-elle encore une grande puissance » en 1998 également, et en 2000, « Le guide du savoir nuire à l'usage des dictateurs ». Je vous laisse la parole.
Merci. Merci. Oui, donc j'ai choisi comme thème de m'interroger à trois jours du lancement de l'Euro 2000 au problème de puissance, d'identité et de régulation, et en essayant de voir si le football est, à cet égard, en termes de puissance, d'identité et de régulation, un miroir ou non de l'Europe. On a beaucoup travaillé sur le sport en termes économiques, en termes sociologiques. Il est beaucoup plus récent, beaucoup plus nouveau d'essayer de conforter sur le sport l'application des relations internationales. C'était ma spécialité première. J'avais un goût personnel prononcé pour le football et j'avais trouvé amusant au cours de la Coupe du Monde d'essayer de marier les deux approches, une approche géopolitique et sur appliquée au football. Et donc je vais tenter devant vous un exercice plus européen en prenant d'ailleurs comme première similitude le fait que au moment où l'Euro 2000 va commencer, peu après, la France va prendre la présidence de l'Union européenne et peut-être certains y verront aussi une coïncidence. Je pense que le premier parallèle que l'on peut faire, c'est que dans les deux cas, pour les nations européennes comme pour le football européen, la construction européenne est à la fois un facteur de puissance, une source d'opportunité, mais également une source d'inquiétude par rapport à ce qui est ressenti comme le risque d'une perte identitaire. Les peuples européens sont en fait très partagés par rapport à la construction européenne. Ils voient bien que c'est une nécessité pour les questions stratégiques, que les pays européens ne se fassent plus la guerre. Pour les questions économiques, on est plus puissants ensemble pour résister aux concurrents japonais et américains. Mais en même temps, ils ont peur que cela se traduise par une régression démocratique, tout se décide à Bruxelles, nous ne pouvons plus rien, ou également qu'il y ait un fossé entre ceux qui profitent de la carte européenne et ceux qui en sont les laissés pour compte, et que tout ceci ne se termine par une régression sociale. Il est donc, d'un point de vue politique, indispensable de démocratiser la construction européenne et de montrer qu'elle peut s'assurer de la coexistence des identités, que l'identité européenne ne vient pas éraser l'identité nationale, mais elle vient se superposer à l'identité nationale, que la construction européenne n'est pas un rouleau compresseur qui vient tout écraser sur son passage. Eh bien, il en va de même pour ce qui est du football. Le football européen est aujourd'hui hyper compétitif, mais on craint un effacement des particularismes et on craint également que ne se creuse un fossé qui devienne infranchissable entre riches et pauvres. En matière de football, le monde est unipolaire, comme en matière stratégique. Simplement, l'hyperpuissance n'est pas les États-Unis, mais sont les pays européens. Les équipes nationales européennes, malgré la résistance de l'Argentine et du Brésil, dominent la scène mondiale. L'Europe comptait 6 quarts de finalistes sur 8 et 3 demi-finalistes sur 4 lors du dernier mondial. Ces clubs sont, et de loin, les plus riches au monde. Et de même que l'on avait évoqué dans les années 50-60 un phénomène de brain drain, d'attirance des cerveaux vers les pays les plus riches, eh bien il y a ce qu'on pourrait qualifier de food drain. Les talents des pays africains, latino-américains, voire asiatiques viennent jouer dans les clubs européens. La grande vedette japonaise, Nakata, joue dans AS Roma. Et donc ces clubs européens sont universellement connus. Manchester United compte des clubs de supporters dans le monde entier, y compris en Asie, où la revue du club est tirée à 15 000 exemplaires rien qu'en Thaïlande. Cette puissance, ils la doivent évidemment à la construction européenne et notamment aux compétitions européennes qui, grâce notamment aux droits télévisés, leur apportent un flux financier dont ne peuvent pas disposer les clubs africains, les clubs latino-américains ou les clubs asiatiques. On pourrait d'ailleurs remarquer que 1956, c'est à la fois la date de la signature du traité de Rome qui va lancer la CEE et la première compétition internationale, la première Coupe d'Europe des clubs champions qui sera d'ailleurs gagnée par le Real de Madrid. Alors, Cette comparaison montre qu'on n'est pas tout à fait dans le même domaine. L'Espagne est en dehors de l'Europe politique pour des questions de démocratique, mais et l'Europe se fait en dehors de l'Espagne ou du Portugal, qui domineront, ces deux pays domineront l'Europe du football au début. Mais néanmoins, cette Europe du football va créer un sentiment d'appartenance commune d'un continent qui était plutôt habitué à se faire la guerre et être traversé par les conflits. C'est un Écossais, Denis Law, qui était Ballon d'Or en 64, sous les couleurs de Manchester United, qui déclarait la chose suivante récemment. « Grâce à la création des Coupes d'Europe, par vous autres Français, des pays différents se sont retrouvés sur un seul et même terrain, celui du jeu, même si c'est pour jouer les uns contre les autres. On a définitivement enterré l'après-guerre. À travers le Real de Madrid, qui a remporté 5 Coupes d'Europe des champions, c'est l'Europe qui, grâce au football, se reconstruisait. » On pourrait d'ailleurs dire que dans les deux cas, l'initiative a été française, aussi bien pour la création de la Coupe des clubs champions que pour la signature du traité de Rome avec l'initiative de Jean Monnet et de Robert Schuman. Effectivement, les matchs entre clubs européens vont susciter des déplacements, des reportages, des retransmissions et donc la connaissance de peuples que l'on ignorait parce que les déplacements se faisaient nettement moins fréquemment et à une moins grande échelle que par la suite. La guerre n'existait plus entre les pays européens, les affrontements vont être canalisés dans les stades. Et les deux Europes, celle communautaire, celle du football, vont progresser et se développer et s'élargir toutes deux. De nouvelles règles, de nouveaux membres sont adoptés, de nouvelles compétitions sont créées. Et les deux Europes vont également connaître la division Est-Ouest, avec dans les deux cas une plus grande prospérité, une plus grande liberté, y compris dans le jeu, à l'Ouest. Les deux Europes vont d'ailleurs connaître, celle du football et celle politique, une accélération de leur construction avec le traité de Maastricht en 92 et l'arrêt Bosman en 95. Cette construction de l'Europe du football s'est donc accélérée avec cet arrêt largement controversé qui pose le principe de la libre circulation des joueurs à l'instar de ce qui se faisait pour les citoyens et les travailleurs au sein des frontières de l'Union. Il ne peut plus, après cet arrêt, y avoir de limitation du nombre de joueurs ressortissant de l'Union européenne dans un même club. Par contre, et on voit que là, une différence entre l'Europe et le reste du monde, pour les joueurs qui ne sont pas ressortissants des pays de l'Union européenne, il y a toujours une limite qui est fixée à 3 joueurs par club. Cet arrêt va profondément accélérer les mutations des joueurs européens dans tous les clubs. Le football européen, finalement, s'est moulé, après cet arrêt, sur le modèle de la société européenne. Auparavant, en effet, les joueurs faisaient toute leur carrière dans la même équipe, généralement celle la plus proche de leur lieu de naissance. Si l'on naissait à Lille, eh bien, on faisait sa carrière au LOSC, et si on était provençal, on avait toute chance de passer le plus clair de sa carrière entre Sète et Marseille. Après la Seconde Guerre mondiale, les transferts se sont accélérés, et on pouvait fort bien commencer sa carrière à Lyon, la terminer à Reims, et bouger à l'échelle nationale, de même que la circulation se faisait beaucoup plus dans le monde du travail, cette fois-ci non plus à l'échelle régionale, mais à l'échelle nationale. Mais jusque dans les années 80, les joueurs étrangers qui évoluaient dans des championnats dont ils n'étaient pas ressortissants se comptaient sur les doigts de la main, mis à part des filières spécifiques, celles des anciennes colonies, les joueurs africains en France, éventuellement les joueurs latino-américains en Espagne, ou la filière très spécifique des joueurs yougoslaves qui permettait à tous leurs joueurs, après 28 ans, d'aller gagner leur vie dans les pays riches, dans les pays occidentaux, et qui, par là même, d'ailleurs, montrait sa différence avec les autres pays communistes. La Yougoslavie, en permettant l'exportation de ses joueurs, montrait qu'elle était un pays beaucoup plus ouvert sur le monde occidental que ne l'étaient les autres pays qui se réclamaient du socialisme. Mais les joueurs européens qui jouaient en dehors de leur championnat national étaient des exceptions. Jusqu'au milieu des années 80, Platini, qui rejoint par exemple la Juventus de Turin, est l'un des rares joueurs français à évoluer à l'étranger, et encore il le fait avec succès, mais dans le pays où il a ses origines, ses racines. 10 ans plus tard, Cantona est le premier français à s'imposer dans le championnat anglais où personne jusqu'ici n'avait réussi. Après 95, après l'arrêt Bosman, ils vont faire de nombreux émules, et aujourd'hui, le nombre de joueurs mineurs, de joueurs français de moins de 18 ans, qui sont recrutés par des clubs étrangers est supérieur à celui des professionnels confirmés qui évoluaient il y a 5 ou 10 ans. Et donc désormais, de même que la circulation des joueurs se faisait à l'échelle nationale, la circulation se fait à l'échelle européenne, c'est, avec des rotations rapides, c'est le symbole de la création d'un marché unique européen qui s'applique également au monde du football, mais également le symbole de la création d'un espace européen qui, à bien des égards, a remplacé le cadre national. Bien sûr, cette rotation à grande échelle concerne avant tout l'élite que représente le football professionnel. Elle concerne moins les joueurs amateurs qui, par définition, ne vont pas bouger pour exercer leur passe-temps. Mais il en va de même pour la circulation des travailleurs. Ce sont plutôt les plus fortes rémunérations, les cadres dirigeants ou les étudiants qui circulent à travers l'Europe, qui vont exercer leur talent dans les autres pays européens, les travailleurs les moins qualifiés, eux, subissant ou étant moins aptes à cette rotation à l'intérieur des pays européens, sauf phénomène minoritaire. Auparavant, les étudiants français qui passaient quelque temps à l'étranger étaient très rares. Lorsque j'étais étudiant, personne ne faisait cela. C'est aujourd'hui presque la règle et presque une obligation, notamment pour la plupart des écoles de commerce et les instituts d'études politiques. Et donc, cette rotation des footballeurs, des étudiants, des cadres dirigeants va modifier la perception. En termes de football, les championnats italiens, espagnols, anglais, allemands sont désormais familiers aux supporters français, qui auparavant connaissaient à peine le nom des équipes des autres championnats et qui désormais peuvent suivre en direct tous les dimanches soirs ou qui ont dans la presse quotidienne, non sportive, tous les lundis, le résultat des différents championnats étrangers. C'était certainement impossible, c'était impossible il y a encore 5 ou 10 ans. De nombreux Français sont devenus des supporters de clubs étrangers. Cela pouvait exister auparavant, mais pour des raisons spécifiques. Mais maintenant, ils supportent des clubs étrangers parce que leurs joueurs favoris y évoluent. La finale de la Champions League opposait bien sûr le Real de Madrid à Valence, mais également Anelka et Carambeu d'un côté, à Jocelyn Angloma de l'autre. Des clubs comme Arsenal ou Chelsea sont presque considérés par certains comme des clubs français parce que des joueurs français parmi les champions du monde ou l'entraîneur Arsène Wenger pour Arsenal y évolue. Cette année, sur 590 joueurs professionnels qui ont évolué dans le championnat anglais de première division, 205 n'étaient pas anglais. Alors, bien sûr, il y a des Écossais, des Gallois ou des Irlandais qui sont britanniques, mais il y a quand même une très forte proportion de non-joueurs anglais. Si l'on prend des statistiques sur les autres championnats en prenant l'exemple d'une journée type d'un championnat, on voit que sur le championnat espagnol, pour la 20e journée par exemple du championnat espagnol, sur 268 joueurs qui ont participé à cette journée, 172 seulement étaient espagnols. 141 des 243 joueurs allemands également. 141 joueurs allemands sur 243 qui ont participé à une journée type de championnat. Pour 240 joueurs de la 20e journée française, 196 étaient des Français. Là, on voit que la proportion est un peu plus importante. Et enfin, si l'on va en Italie, on voit que sur une journée type, il y a une proportion de 168 Italiens sur 247 joueurs. Ces chiffres sont-ils inquiétants ou normaux ? Eh bien, ils indiquent en fait une proportion allant de 25 à 30-35 % de non-nationaux en moyenne qui évoluent. C'est en fait à l'image d'une Europe qui est de plus en plus brassée et où la mobilité à la fois personnelle et professionnelle est de plus en plus forte et où les populations sont de plus en plus mélangées. En fait, après tout, on ne regarde pas aujourd'hui si l'équipe de Marseille ou du Paris Saint-Germain est avant tout composée de Provençaux ou de Franciliens. Eh bien, même l'équipe de Bastia, où l'affirmation identitaire pourrait être la plus forte et qui est pourtant très liée pour le meilleur et pour le pire, au milieu nationaliste, ne compte guère d'insulaires dans ses rangs sans que chacun ne s'en offusque. Eh bien, on peut voir que ce qui était vrai et accepté par chacun à l'échelle nationale le devient à l'échelle européenne. On accepte que des joueurs européens non nationaux évoluent dans les autres clubs. Mais pour autant, la construction européenne efface moins les particularismes nationaux, que la construction nationale n'a en France, par exemple, effacé les particularismes régionaux. Si l'Europe doit être une fédération d'États-nations, elle doit trouver en football, comme pour le reste, un équilibre entre l'ouverture et le maintien des identités. Et c'est pour cela que je crois qu'il est vain de penser que, dans quelque temps, l'on pourra faire que tous les joueurs évoluant dans un championnat pourront jouer pour l'équipe nationale. Est-ce que Vieira et Petit pourront jouer pour l'équipe anglaise parce qu'ils évoluent dans le championnat anglais ? Non, parce que l'identité nationale n'est en rien effacée par cette construction européenne. Les clubs, oui, mais l'attachement aux équipes nationales reste très très forte et il n'est pas question, il n'est pas envisageable à ce stade que des joueurs non nationaux puissent évoluer dans leur patrie d'adoption. De même que la constitution d'une union politique européenne se superposera sur les États existants et ne viendra pas les effacer, la mise en place d'un espace européen du football ne viendra pas détruire la dimension nationale. Les équipes nationales, au contraire, suscitent une adhésion et une ferveur inchangées, voire croissantes, alors qu'il y a de plus en plus une suspicion sur les clubs où on pense très souvent que l'intérêt financier des managers, des joueurs ou des dirigeants a remplacé ce que l'on qualifiait d'amour du maillot auparavant, qui existe toujours pour les équipes nationales. On parle toujours des primes d'engagement pour les clubs, on parle nettement moins des primes qui existent pourtant également des joueurs en cas de victoire dans les compétitions internationales. C'est là le problème pour les clubs européens, c'est que la construction européenne est perçue comme étant menaçante pour la préservation d'une identité. C'est vrai pour les clubs, ce n'est pas vrai pour les équipes nationales. Or, si demain, les supporters ne s'identifient plus à leur club, eh bien, on ira rapidement vers la perte de l'attractivité du football et on aura tué la poule aux œufs d'or. L'argent qui permettra la libre circulation et qui fera qu'on achètera des joueurs très chers pour qu'ils évoluent dans le championnat viendra tuer l'intérêt et donc on aura un peu fait perdre l'attractivité de ce qui existait auparavant. Le phénomène se passe déjà dans certains clubs. À Barcelone, qui pourtant était le bastion du nationalisme catalan sous l'Espagne franquiste, il n'y a qu'au stade du Nou Camp que l'on pouvait parler catalan. Et les victoires de Barcelone contre le Real de Madrid, qui était le club préféré de Franco, qui était plus rare parce que l'arbitrage, il fallait bien le dire, avantageait nettement le Real sur le Barcelone, mais les victoires du Barça étaient les victoires à la fois de l'opposition politique et de l'opposition régionale sur le régime franquiste et sur la mainmise espagnole sur les Catalans. Eh bien, aujourd'hui, l'entraîneur du Barcelone est hollandais, cela fait longtemps, et c'était déjà le cas avec Johan Cruyff, mais il y a 8 joueurs qui sont néerlandais, ce qui a amené les sociaux, parce qu'ils sont les supporters sont des sociaux, ils sont associés au club, à entamer comme slogan « plus de Catalans, moins de tulipes » pour se plaindre de la prééminence des joueurs néerlandais dans l'équipe catalane, qui donc semblait ne plus les représenter eux-mêmes. En décembre 1999, autre exemple, l'équipe de Chelsea, qui l'emporte 2-1 contre le club adverse de Southampton, ne comportait pas un seul joueur anglais dans l'équipe de départ. Et donc là, on voit deux exemples extrêmes de dénaturation de l'identité, de perte de l'identité, avec bien sûr le risque d'une désaffection, d'un manque d'attachement, d'un manque de transfert des spectateurs, des supporters ou des sociaux contre cela. C'était un phénomène le plus extrême. L'autre phénomène extrême, mais qui est plus rare, c'est celle d'une préservation à tout prix de l'identité. Là, il y a deux exemples, pour des raisons différentes, mais qui se rejoignent. C'est l'Atlético Bilbao, qui n'accepte pas de joueurs non basques. C'est là l'affirmation presque exclusive, et pour ne pas dire raciste, de l'identité basque du club, dont on n'accepte pas les non basques. Lizarazu y a joué une année en étant d'ailleurs mal intégré, mais c'était un basque français, donc il était admissible. L'autre exemple, c'est le club norvégien de Rosenborg, qui compte 100% de joueurs norvégiens. Mais ce n'est pas un hasard si la Norvège est l'un des rares pays européens qui a refusé de rejoindre l'Union européenne par deux fois après avoir demandé son adhésion. Donc il y a là aussi une similitude entre la dimension nationale et la dimension footballistique. Conscient de ce problème d'éventuelle perte d'identité, les instances du football réagissent un peu sur limiter les excès de l'arrêt Bosman et essayent de mettre en place une règle qualifiée de 6+5 où chaque club devrait aligner en permanence 6 joueurs sélectionnables dans l'équipe nationale ou à lieu de championnat. Donc le Paris Saint-Germain devrait avoir en permanence 6 joueurs qualifiables, non pas qualifiés, mais sélectionnables en équipe de France, 6 joueurs ayant la nationalité française, où Chelsea ne pourrait plus démarrer la compétition sans aucun joueur anglais, devrait avoir au moins au départ 6 joueurs et on aurait le droit à 5 étrangers. Et là, un autre parallèle peut être fait. Il y a une exception culturelle aux règles de libre circulation, de liberté d'établissement des capitaux et des individus, eh bien, cette exception culturelle serait appliquée au football. De même qu'il y a des quotas pour le cinéma, pour la télévision, eh bien, il y aurait un quota pour le football. Et donc, on associerait la pratique sportive de haut niveau à la pratique culturelle. Donc là encore, on voit bien que c'est vers l'Europe que se tournerait le milieu du football pour se protéger. Parce que sinon, bien sûr, si le football est uniquement dominé par l'argent, si on peut connaître le sort des compétitions, non pas en lisant la composition des équipes, mais en voyant le bilan financier des clubs, très rapidement, le football qui est avant tout fait de suspense, d'absence de résultats acquis à l'avance et du fait que le match peut changer de sens jusqu'à la dernière minute, si bien sûr on sait que le club qui a 800 millions de budget l'emporte automatiquement contre celui qui a 300 millions, si l'on pousse la logique jusqu'au bout, eh bien on videra les stades, on videra les télévisions et donc on videra les droits. Et donc, de même que le marché porte en lui-même ses limites, eh bien le marché du football porte également lui-même ses limites, et les instances du football, afin de s'auto-préserver contre les excès du marché, essayent de mettre en place des règles pour préserver l'intérêt des compétitions. On peut dire que l'identification par le football est d'autant plus importante que l'identité dans ce monde est en crise. Il y a une crise de l'État-nation qui est concurrencée à la fois par le bas, par les collectivités locales, par les régions, par les ethnies, par les particularismes identitaires et par le haut, la mondialisation. Et ce sont désormais les problèmes identitaires et non plus les affrontements idéologiques ou les rivalités entre États comme autrefois qui sont devenus la source la plus importante de conflits, y compris de conflits militaires. Les guerres qui opposent les États sont de moins en moins fréquentes, elles deviennent des exceptions et non plus la règle. Ce sont désormais des guerres civiles entre identités qui se déroulent. Et le démembrement des empires multinationaux, soviétiques ou yougoslaves, a entraîné une redéfinition générale des frontières en Europe. Le football va dès lors créer un repère identitaire qui existe moins ou qui n'existe plus. Souvent, l'attractivité identitaire, l'identification autour de l'équipe, a une fonction revendicative. Dans les régimes autoritaires, les stades sont les seuls endroits où les réunions de masse et où la manifestation de joie ou de désaccord sont permises. Et sous couvert du soutien normal que tout supporter doit accorder à son équipe fétiche, eh bien, on manifeste une opposition qui est interdite dans la rue ou dans les urnes. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du Barça, mais sous l'Union soviétique, les victoires du Dynamo de Kiev contre le Spartak de Moscou étaient l'un des rares moments où le nationalisme ukrainien pouvait s'exprimer contre la domination soviétique qui était prise pour une domination russe. Ce n'est pas un hasard si le football club du Pristina a été banni de la Ligue yougoslave par les autorités serbes en 1991, au moment même où Milosevic supprimait le statut d'autonomie du Kosovo. Et ce n'est qu'en 1999, en juillet, après la guerre, que ce club a pu, devant 25 000 supporters qui agitaient des drapeaux à la fois albanais et américains, supporter le FC Pristina qui rejouait pour la première fois un premier match contre un club macédonien. Ce match symbolisait le retour à la normale pour les Kosovars et symbolisait de nouveau l'affirmation de l'identité kosovare qui avait été bannie dans les rues, bannie dans les urnes et bannie dans les stades. On a pu voir auparavant, on en a longuement parlé, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est un phénomène connu, que l'opposition entre les deux clubs phares de Serbie et de Croatie, donc entre deux clubs yougoslaves, le Dynamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade, montraient que les problèmes entre Serbes et Croates n'étaient pas absolument résolus, de même que l'opposition entre clubs georgiens, ukrainiens, russes, montrait que l'Homo Sovieticus avait des limites, que ces limites c'était celles des portes du stade, et que derrière les discours sur l'unité de l'Union soviétique, ces particularismes s'exprimaient d'une façon ou d'une autre. Le football peut aussi permettre l'affirmation d'une identité qui a été refoulée et qui a été niée. Chacun connaît l'exemple de l'équipe du FLN, créée en 1958 avec des joueurs algériens évoluant dans le championnat français ou dans quelques autres clubs, et qui est parti faire une tournée en Asie et en Afrique. Et c'est pour cela que le plus brillant joueur algérien de l'époque, Rachid Mekloufi, a été privé de la Coupe du Monde de 1958. Et donc l'équipe de football a préexisté 4 ans, a précédé de 4 ans la création de l'État algérien. Et je crois que l'on peut voir un signe, ce n'est pas tout, mais dans le fait qu'il y a une dizaine de jours ait pu se dérouler, sous les auspices du roi Pelé, à un match israélo-palestinien à Rome. C'était un vieux rêve de l'ancien président de la FIFA. Ce match n'aurait pas été possible sans le processus d'Oslo. Le processus d'Oslo en route, eh bien, Israéliens et Palestiniens peuvent se rencontrer normalement sur un terrain de football. Alors, il ne faut pas dire que c'est ce match de football qui va permettre la pacification entre les deux peuples. Il en est le symbole, il n'en est pas la cause, il en est l'effet, mais il a également des effets accélérateurs. On peut presque dire qu'aujourd'hui, la définition de l'État pour les États nouveaux, pour les États issus du démembrement des 15 républiques de l'Union soviétique, pour les États issus du démembrement de l'ex-Yougoslavie. Eh bien, la définition traditionnelle de l'État, un gouvernement, une population, un territoire, doit être complétée par une équipe nationale de football. Et pourquoi doit-elle être complétée ainsi ? C'est qu'il est plus facile au quotidien pour la population de s'unir autour, dans un stade, dans des salons, dans des cafés, autour d'un écran de télévision, de leur équipe nationale, où là, il y a, si l'on dit que l'appartenance de la nation est un référendum quotidien, là, il y a un référendum qui dure 90 minutes, eh bien, cette appartenance, ce sentiment d'identification est beaucoup plus mobilisateur, beaucoup plus quotidien que le fait de réclamer une ambassade à l'ONU ou d'envoyer une délégation auprès de l'Union européenne. Et là, il y a quelque chose qui se manifeste, qui se palpe, qui se touche, qui se voit et qui parle à chacun et qui est donc un symbole unificateur beaucoup plus fort. Et cela permet en fait d'établir un lien entre souveraineté et vie quotidienne. Quels sont les autres éléments de la vie internationale qui établissent un tel lien entre souveraineté et vie quotidienne ? Il n'y en a pas beaucoup. L'équipe nationale n'est pas simplement le résultat de la création d'un État, elle a souvent aidé à forger la nation. Pour les jeunes États où le sentiment national est fragile, ballotté par les conditions mêmes de la création de cet État, eh bien, le football sert d'un fédérateur extrêmement puissant à une communauté qui, de l'Arménie à l'Ukraine, de la Croatie à la Macédoine, a souvent été traumatisée. En Ukraine, les exploits du Dynamo de Kiev, et dans une moindre mesure, parce qu'elle réussit un peu moins de l'équipe nationale, sont un sujet de fierté nationale qui n'a pas tellement d'autres motifs de satisfaction à les remplir. Et lorsque, en septembre 1998, l'Ukraine bat dans ce qui est qualifié de match du siècle, la Russie 3-2, c'est une revanche sur 4 siècles de mainmise de la Russie sur l'Ukraine. Le football, c'est l'assurance de l'indépendance de l'Ukraine, explique le vice-président de la Fédération ukrainienne, dont le président n'est autre que le Premier ministre ukrainien. Et pour les responsables de la Fédération, il explique, au travers le football, un jeune pays comme le nôtre peut grandir. Dans nos victoires, le sentiment national joue un rôle énorme. Et donc on peut voir que dans ce pays, dont le potentiel est énorme, mais dont les difficultés quotidiennes et actuelles sont très fortes, qui est partagé entre sa partie orientale et sa partie occidentale, le football est un élément unificateur très puissant que ne peut jouer ni la démocratie imparfaite, ni l'économie en lambeaux, ni les règles sociales controversées. L'entraîneur de l'équipe de Croatie, qui a si bien réussi lors de la dernière Coupe du Monde pour atteindre les demi-finales, pouvait déclarer « En Croatie, je suis un héros, c'est moi qui ai réveillé le sentiment identitaire croate en gagnant le championnat de Yougoslavie en 82 avec le Dynamo de Zagreb. » Et l'utilisation qui a été faite par le régime Tudjman des succès de l'équipe nationale croate, il y a maintenant presque 2 ans, ont été notés par chacun, même si, heureusement, ce régime croate n'a pas perduré et que les succès de l'équipe nationale n'ont pas permis que perdure un régime dont le sens de la démocratie et de la réconciliation ethnique n'était pas le plus fort. Un phénomène très intéressant qui s'est passé récemment, c'est la victoire d'un club turc, le Galatasaray, dans la coupe de l'UEFA, la seconde coupe européenne. C'est un récent à double titre. Par le club qu'il a gagné. Ce n'est pas n'importe quel club turc. C'est le club du Galatasaray qui a été fondé en 1905 par des enseignants au lycée Galatasaray, donc des étrangers évoluant en Turquie et des Turcs qui, étant liés à ce lycée, étaient tournés vers l'étranger. Donc des gens qui, dès le début du siècle, ont pris le pari de l'ouverture européenne de la Turquie, avant même la défaite de l'Empire ottoman, donc du fait que le succès turc ou ottoman passait par une ouverture sur le monde extérieur et sur l'Europe. Eh bien, ce n'est donc pas un hasard si c'est ce club qui a réussi. Et je dirais que, et peut-être trouvez-vous que je pousse un peu le trait un peu loin, que ce n'est pas un hasard si ce succès est intervenu après le sommet d'Helsinki. Après le sommet d'Helsinki qui a accepté le principe de la candidature à l'Union européenne de la Turquie, alors qu'elle avait été refusée 2 ans auparavant au sommet de Luxembourg. La vocation européenne de la Turquie a été réaffirmée solennellement avec le droit, même si chacun sait que cela prendra certainement plus de temps que pour la Hongrie, mais le droit à la Turquie d'adhérer à l'Europe, et peu après, un club turc triomphe dans cette compétition. En Turquie, cette victoire est venue conforter les partisans de l'Europe par rapport à ceux qui estiment que la Turquie doit se détourner de l'Europe. Le nouveau président de la République turque pouvait dire, lors de sa première apparition publique, « Le succès de Galatasaray montre que le pays était déterminé de rivaliser avec le monde dans tous les domaines. » Et pour certains, pour la plupart des observateurs turcs, ce succès montrait que la Turquie pouvait se confronter avec succès aux autres pays européens. Et s'il pouvait le faire en termes de football, eh bien il pouvait le faire en termes de droits de l'homme, en termes économiques et en termes sociaux. Et donc cette victoire va être utilisée par les partisans de l'Europe en Turquie, de même que la victoire de l'équipe Black Blamber française a été utilisée par les partisans de l'intégration contre ceux de l'exclusion. Là encore, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la facilité. La victoire de l'équipe multiethnique de la France n'est pas venue résoudre l'ensemble des problèmes posés par le racisme en France, mais elle sert de formidable levier à ceux qui veulent lutter contre le racisme. Elle ne résout pas tous les problèmes, cela sert de levier. Mais de même que le fait que la France ait gagné la Coupe du Monde avec une équipe en majorité composée de joueurs évoluant dans des clubs européens, eh bien, est venue dans un pays qui est toujours partagé entre l'arrogance et la peur du déclin, entre ces deux extrêmes, et montrer que l'ouverture à l'extérieur, le fait de se frotter à la compétition européenne, était le gage d'un succès mondial, et que le pays, malgré ses peurs, pouvait réussir en termes de mondialisation ou de mondial, à condition de s'appuyer sur le pilier européen. Et là, je crois qu'on peut de nouveau faire une comparaison, aussi bien en termes de football qu'en termes économiques ou qu'en termes politiques. Alors, maintenant, la régulation. La régulation, eh bien, on a peur à la fois d'une trop grande régulation européenne ou d'un trop grand libéralisme européen. On reproche deux choses un peu contradictoires à l'Europe, de vouloir se mêler de tout et de laisser le champ libre au libéralisme. Et ce sont, pas toujours par les mêmes, mais ce sont les deux reproches principaux qui sont opposés à l'Europe. C'est également vrai en termes de football. Les grands clubs européens, les clubs les plus riches, se plaignent que les compétitions nationales sont moins intéressantes. Pour le Real de Madrid ou Manchester United, les compétitions anglaises ou espagnoles sont un peu des secondes divisions par rapport à la Ligue des Champions. Et donc, il y a une très grande tentation de regrouper les clubs phares dans une compétition internationale, européenne, où les meilleurs d'entre eux se rencontreraient et s'affronteraient à budget égaux. Cette tentation est tellement forte qu'un groupe privé, Media Partners, l'a même envisagé et avait prévu un programme où 20 clubs sur invitation, en fonction de leur budget, auraient disputé un championnat à eux, et pour que personne ne soit lésé, où il n'y aurait pas eu de relégation, donc chacun serait sûr de participer à la compétition suivante pour qu'il n'y ait pas de trou dans le budget. À l'inverse, des clubs néerlandais, belges, danois et écossais voulaient se regrouper dans une sorte de contre-fédération Bosman. C'était les laissés pour compte de l'arrêt Bosman, parce que pour le PSV Eindhoven ou pour les Glasgow Rangers, qui auparavant étaient des clubs très compétitifs, eh bien, la faiblesse de leur championnat national fait qu'ils ne sont plus compétitifs à l'échelle européenne, et donc ils ont besoin de se frotter à d'autres. Mais on voit bien que la concentration des richesses est que d'un côté qui a amené les clubs les plus riches des pays les plus riches, ceux où les droits de télévisés sont les plus forts, à pouvoir capter les meilleurs joueurs. Et de l'autre, la prolifération étatique, la multiplication des championnats. Il y avait avant un championnat soviétique, il y a maintenant 15 champions nationaux. Et le championnat estonien ou de Lettonie, sans vouloir porter injure à ces pays, est forcément moins compétitif que n'était le championnat national. Eh bien, on voit mal, effectivement, une Ligue des champions où la Juventus de Turin rencontrerait le champion slovaque, estonien ou, pourquoi pas, ouzbek. Et donc, il y a une volonté, un besoin de réguler pour éviter le laisser-faire complet ou une sorte de faux égalitarisme où il n'y a pas d'équité entre les clubs. En fait, l'Europe a le même défi à relever. L'Europe doit s'élargir, elle a vocation à accueillir 12 nouveaux États, et donc on aura une Europe à 27, dans un premier temps. Évidemment, on ne pourra pas avoir une Europe avec 35 commissaires européens, une présidence tournante tous les 6 mois où l'Estonie remplacera la Slovaquie, et où le président français, même sous l'ancien septennat, pourrait, au cours de son mandat, ne jamais être président en titre de l'Union européenne. Donc les deux Europes, celle du football, celle politique, doivent s'adapter pour réguler cela, où l'équité doit remplacer l'égalité stricte. Il ne faut pas aller vers l'enlisement de l'Europe, il ne faut pas aller vers l'enlisement de l'Europe du football et éviter qu'il y ait simplement un classement des riches. Et on peut très bien concevoir que sur des bases sportives, avec une opération promotion-relégation, il y ait par la suite un championnat européen qui réunisse les clubs qui auraient été qualifiés sur le terrain et non pas en vertu de leur bilan financier, et cela serait unificateur de l'espace européen. Il y avait auparavant des championnats régionaux, puis les championnats nationaux. Nous aurons à terme un championnat européen. Il ne faudra pas que cela soit celui de l'argent, que cela soit celui du sport, même si, évidemment, il y a interaction entre les deux. Mais à terme, on voit bien qu'il n'y aura pas d'alternative à cela. Nous aurons un jour ou l'autre un championnat d'Europe, des clubs, parce que cela sera partie de l'espace européen. Les instances européennes ont été accusées d'avoir déstabilisé l'équilibre du milieu sportif avec l'arrêt Bosman, qui à la fois symbolise la liberté des joueurs qui auparavant étaient enchaînés contre leur gré, et Bosman en était un exemple, par des contrats relativement iniques au club, mais en même temps, cela est venu donner la primauté au plus gros budget avec cette circulation sans rien. Et cet arrêt Bosman était très significatif de l'ultra-libéralisme, d'une sorte de dérive libérale de la Commission européenne. Et ce n'était pas un hasard si, dans la précédente commission, celui qui était en charge des sports était Karel van Miert, qui était en fait en charge des problèmes de concurrence. Donc le sport était considéré par les instances européennes comme l'un des sous-aspects des problèmes de concurrence. Dans la nouvelle commission qui a été mise en place par M. Prodi fin 99, le sport est pris en charge par le commissaire qui est chargé de l'éducation et de la culture, Mme Viviane Reding. Et donc là, on voit un changement. On est passé du laisser-faire à une volonté de réguler de façon souple, non pas de façon tatillonne, mais de considérer que le sport est rentré dans le domaine de l'intérêt public et qu'il ne peut pas être traité uniquement comme un moyen de gagner de l'argent. Et donc, aujourd'hui, il y a une volonté et un appel des instances sportives envers les instances européennes pour faire en sorte que ces instances européennes prennent en charge une partie de la régulation, de même que les instances européennes prennent en charge la régulation économique ou sociale. Et les premières questions, bien sûr, qui sont à résoudre et que la présidence française aura sur son agenda, Madame Buffet, Monsieur Moscovici auront à en traiter, c'est la vente collective des droits de télévision. Est-ce que chaque club est libre de vendre son image ou est-ce qu'il y a une sorte de péréquation entre les clubs à l'échelle européenne, à l'échelle nationale? La mobilité des joueurs qui doit être compensée, qui ne doit pas être totale, qui doit être compensée, en tout cas dans laquelle on doit tenir compte du rôle des clubs formateurs et du fait que ces clubs ne doivent pas être pillés. De la taxation des sportifs et des clubs pour maintenir une équité, là aussi, entre les clubs, de même que pour les hauts revenus, il ne faut pas qu'il y ait d'évasion fiscale, il ne faut pas qu'un pays ait un système de taxation fiscale différent et qu'on recherche une harmonie fiscale. On aura également à rechercher une harmonie fiscale dans le domaine du sport. Et puis, bien sûr, pour l'organisation des compétitions, elles devront être organisées à l'échelle européenne et non pas confiées à des groupes privés. La Commission européenne, dans un document remis à Helsinki, d'ailleurs, justement, estimant que, je cite, « le système de promotion-relégation constitue une marque d'identification du sport européen ». Donc il y a une sorte de norme européenne de la promotion-relégation. Les plus petits descendent, les plus grands d'en bas montent. Et ceci, bien sûr, toujours selon la Commission et selon les observateurs, offre plus de chances aux clubs petits et moyens, parce qu'on a toujours des bonnes surprises, des clubs comme Sedan qui arrivent à monter, ou des clubs richement dotés qui descendent. Ça fait d'ailleurs toujours plaisir à tout le monde, parce qu'on dit qu'il y a une justice qui est autre que la seule justice de l'argent. Eh bien, cela doit être organisé, et la Commission européenne demande au Conseil européen d'organiser cela. Et puis, bien sûr, on voit bien que des problèmes comme la lutte contre le dopage, comme les aides publiques aux clubs, qui sont nécessaires mais qui doivent être limitées, ou tout simplement les clauses de nationalité, doivent être résolues hier à l'échelle nationale, aujourd'hui et demain à l'échelle européenne. Donc là, on voit encore qu'il y a un transfert de l'échelle de compétence du niveau national à l'échelle nationale. Cela est vrai pour un tas de domaines, cela est également vrai dans le rôle du sport. Et donc, si l'Europe arrive à jouer ce rôle régulateur, eh bien, elle permettra au football européen de parvenir à un équilibre entre les exigences de la compétition, de l'hypercompétition, et le respect des règles éthiques et du respect des personnes. Je dirais en conclusion que de même que par rapport aux autres continents, l'Europe se caractérise par l'exigence d'un équilibre entre l'individu et le collectif, entre celui de la performance économique et le respect des normes sociales, entre la régulation et le libéralisme, éviter l'ultralibéralisme et éviter le dirigisme étouffant, eh bien, cela vaut également pour le football. L'Europe peut apporter conjointement puissance et respect des identités. Cela vaut à la fois pour les États, pour les populations, pour les entreprises et pour le football. Je vous remercie.
Quand vous parliez d'identité des clubs, vous parliez en fait de quotas de joueurs étrangers. Mais est-ce que dans les styles de jeu, finalement, il ne reste pas quand même dans chaque club vraiment une identité et c'est justement intéressant de voir qu'elle continue à exister aussi fortement alors même que l'entraîneur, par exemple, peut être d'une autre nationalité.
Je crois que c'est un aspect extrêmement intéressant parce qu'effectivement, il y a des spécificités nationales. On a parlé avant du jeu latin, ou du kick and rush britannique, ou du football samba brésilien. Les Français étaient talentueux mais friables psychologiquement, et chaque football avait sa particularité. Les Africains étaient également considérés comme désorganisés et extrêmement talentueux. Il y a aujourd'hui, mais là encore on peut faire un parallèle entre mondialisation et respect des identités, un cumul des deux phénomènes. C'est-à-dire que les Français ont appris, parce qu'ils évoluent dans ces clubs-là, eh bien, ont un peu plus de rigueur, ils ont pris un peu plus de rigueur quand ils jouent en Italie. Ils ont pris un peu plus de jeu de tête en jouant dans les clubs anglais. Ils ont pris un peu plus de technique dans les clubs espagnols. Et donc, il y a à la fois une sorte de copiage simultané ou de ressemblance, en tout cas de rapprochement des différentes cultures footballistiques nationales, avec la conservation quand même d'un certain modèle. Les différences sont moins grandes qu'avant. Elles existent. Mais le fait que chacun s'observe et que chacun essaye d'adopter les méthodes des autres pour réussir là où un élément important dans la victoire lui manque, fait que, de même qu'aujourd'hui, on peut manger chinois, japonais, italien, libanais dans toutes les rues de Paris, tout en conservant une cuisine française, eh bien, les différents styles de football se sont un peu mêlés, y compris dans les différents clubs européens et dans les équipes nationales européennes.
Merci beaucoup. Monsieur, en haut, au milieu.
Alors, si actuellement les politiques se préoccupent de sport sur le plan économique et pour le prestige national, est-ce qu'ils ne pourraient pas non plus, assurer la promotion du sport sur un plan social et un plan sanitaire? C'est-à-dire, si on fait partie d'une équipe de sport ou de foot, on est plus sociable, et puis si on pratique du sport, on est en meilleure santé.
Oui, c'est-à-dire que le football a ceci d'intéressant, c'est que c'est l'un des sports qui allie le plus le talent individuel et l'esprit collectif. George Weah est l'un des meilleurs joueurs du monde, il ne participera jamais à la Coupe du Monde parce que son équipe nationale n'a pas le niveau. Mais en même temps, et donc il faut un lien entre individu et collectif. Un joueur talentueux sans équipe ne fera rien. Mais une équipe où il n'y a pas un peu de talent individuel ne fera pas grand-chose non plus. L'équipe de France sans Zidane ou sans Platini auparavant, ce n'est pas tout à fait l'équipe de France. C'est pour cela qu'un pays comme le Japon, a voulu importer le football de façon très volontaire en disant « Nous, Japonais, nous avons nos sports traditionnels, les arts martiaux, qui sont basés sur la volonté individuelle et la concentration, et on a importé des sports américains après 1945, le baseball ou le football américain, qui sont très mathématiques et très répétitifs. Qu'est-ce qui nous manque à nous, Japonais? Qu'est-ce qu'on nous reproche? C'est de ne pas être imaginatif, de copier plutôt que d'inventer. Le football a ceci de fantastique, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer et qu'il développe l'imagination, mais dans un cadre collectif, sans développer l'individualisme. Et donc ce mariage du collectif et de l'individu a été perçu par les Japonais comme quelque chose de très intéressant pour pouvoir conserver l'aspect collectif qui est très important et donner un peu plus d'espace aux individus pour ce qui, pour les Japonais, devenait un impératif important. Alors effectivement, le sport et la santé, sauf excès, sauf cas de dopage, sauf match à répétition, sous infiltration, etc. Donc au quotidien. Et sur le rôle social, oui, avec là certainement le risque du sport des excès du sport professionnel, c'est une concentration de moyens sur des vedettes et un dénuement de l'ensemble des bénévoles, des volontaires qui, au quotidien, s'occupent des enfants, s'occupent... Moi, je suis administrateur d'un club, je râle du fait que tout va à l'équipe première et il n'y a pas assez qui va à l'équipe des jeunes, où normalement, d'ailleurs, c'est là aussi le brassage scolaire, ethnique, social qui se fait dans les clubs de foot. Donc là, il y a un rôle très important qui n'est pas un rôle social, un rôle d'intégration, qui n'est pas suffisamment pris en compte, qui est pris en compte par des gens dont le dévouement est remarquable, mais qui est là au petit hasard la chance, selon la qualité des individus. On voit à la fois, avec le développement de l'argent dans le football, on voit à la fois toujours des choses formidables, des gens qui se dévouent au quotidien avec une abnégation et avec un sens de la pédagogie formidable, et des parents qui emmènent leurs enfants de 8 ans en pensant déjà à la maison qu'ils s'achèteront lorsque leur fils sera professionnel, ou je ne plaisante malheureusement pas, c'est dramatique, ou des entraîneurs qui apprennent à des enfants de 10 ans à tomber pour simuler un pénalty. Eh bien là, bien sûr, on va à l'inverse de la noblesse du sport et de ce que le sport doit apprendre comme vertu aux différents individus.
Merci beaucoup. Monsieur à gauche.
Ici. Pensez-vous qu'il existe des matchs truqués pour des raisons politiques?
Pour les raisons financières, ça s'est vu. Pour les raisons politiques, alors est-ce que vous voulez dire que le match Iran-États-Unis a été... Non, je ne crois pas parce que là, ça serait donc plutôt à l'échelle nationale, entre équipes nationales, que cela pourrait se produire. L'autorité d'un président... Alors, il faudrait vraiment que ce soit des pays très peu démocratiques. On voit mal Clinton demander à l'équipe américaine de lâcher le pied pour améliorer les relations avec l'Iran, ou le président Chirac dire aux Français d'en faire moins pour décrocher un marché dans tel ou tel pays. Donc ça, je ne crois pas. Il y a par contre des cas où, effectivement, il y a une surenchère, mais plutôt pour la victoire politique, un match Croatie-Yougoslavie, a eu lieu d'ailleurs pour les éliminatoires de l'Euro 2000, et bien là il y avait effectivement une passion, ou à l'inverse, lorsque les joueurs ivoiriens ont été éliminés dès le premier tour pour la Coupe d'Afrique des Nations, et bien le président les a tous réunis à Yamoussoukro, ils ont été en prison pendant 2 jours, et il a fallu des pressions internationales fantastiques pour qu'ils soient libérés. Des matchs truqués pour les raisons politiques, ce n'est pas possible, parce que les motivations ne sont pas les mêmes. On ne peut pas dire que la motivation politique des joueurs professionnels soit leur caractéristique première.
Merci. Monsieur à droite.
Oui, vous avez parlé du problème de l'harmonisation fiscale. D'autre part, vous avez parlé de l'exception, la nécessaire exception culturelle à travers la loi Bosman. Je voulais savoir si on pouvait concilier ces deux concepts, ceux de l'harmonisation fiscale et celui de l'exception culturelle, pourquoi pas un accord sectoriel sur la fiscalité pour le sport. Est-ce que c'était possible ?
Enfin, là, dans ce domaine-là, tout est possible. Bon, ceci étant, les joueurs français qui se plaignent d'être pressuré fiscalement et de devoir fuir à l'étranger pour cela, ferait mieux de se taire, parce que, vu les sommes qu'ils gagnent à l'étranger, la pression fiscale n'est quand même existe, mais enfin à partir de sommes qui dépassent l'entendement pour le commun des mortels. Mais c'est plutôt en fait le problème de l'harmonie, c'est plutôt sur les aides aux clubs. Chacun sait que le Real de Madrid a une dette d'environ 1 milliard de francs. Et qu'on voit que l'une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas l'équivalent en France de la Direction nationale de gestion et de contrôle sur les clubs, sur beaucoup de clubs étrangers qui peuvent être très lourdement endettés sans risquer de sanctions. Et c'est pour cela que le Real peut acheter un LK de 120 millions, parce que ça ne fait que d'augmenter un petit peu sa dette. Donc c'est surtout là qu'il y a à faire. Sur le reste, je ne crois pas qu'il soit réellement envisageable de dire on va faire une exception pour la taxation sur les footballeurs. Soit on trouve une harmonisation fiscale générale, mais de faire une exception sur le football serait assez mal vécu, y compris par les supporters qui, généralement, se recrutent plutôt dans des milieux populaires dont le pouvoir d'achat est plutôt inférieur quand même au niveau moyen et qui, même si à la fois il soutient les joueurs, estime que très vite ils sont trop payés. C'est le fait que auparavant, quand Copa évoluait en équipe de France et au stade de Reims, bien les joueurs gagnaient un peu plus que des cadres moyens ou à peu près l'équivalent que des cadres supérieurs. Il n'y avait pas un réel écart. Ils étaient bien payés parce qu'ils échappaient à la condition ouvrière qui était la leur généralement. Mais il n'y avait pas un écart de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Le footballeur le plus talentueux ne gagnait pas, y compris dans les années 70, jusqu'au début des années 80. Ne gagnait, le ratio était de 1 à 2, de 1 à 3 par rapport au salaire moyen, pas de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Et cette surenchère de l'argent crée des attentes qui fait que maintenant, lorsque l'équipe ne gagne plus, ou lorsqu'on a l'impression que le joueur n'a plus le fameux amour de maillot, ou qu'il ne mouille plus le maillot, qu'il se contente de recevoir son chèque à la fin de mois, les supporters se retournent contre les joueurs. C'est pour cela qu'on a vu à Lens, à Marseille, à Saint-Etienne, au PSG, les supporters se retournaient contre ceux qu'ils adoraient hier. Parce que lorsque l'on gagne 500 000 francs par mois, eh bien, on attend beaucoup plus de vous que si on gagne un peu plus. Que lorsqu'on a une Ferrari ou une grosse BMW, eh bien, cela crée des attentes qui sont différentes que si, après le match, vous prenez le même bus que ceux qui vous ont applaudi. Et donc cet excès de l'argent ou ce déversement de l'argent est à la fois très profitable, mais crée des dangers qui, à terme, peuvent créer des difficultés aux vedettes auxquelles on ne passe plus le moindre écart. On est toujours, on accepte tout de quelqu'un qui est fidèle au club et qui reste depuis longtemps. On pardonne peu à quelqu'un qui est là depuis quelques mois et qui risque de repartir dans quelques mois.
Merci beaucoup. Dernière question en bas à droite. Ah non, pardon, avant-dernière. Alors.
Vous avez émis des hypothèses concernant, je reviens sur la question des identités culturelles dans les clubs. Donc, des hypothèses, d'abord, peut-être que les supporters catalans en ont assez de voir 8 Hollandais les représenter au Barça. Et peut-être qu'en réaction, les autorités européennes prendront un règlement qui impose 6 joueurs sélectionnables dans chaque club. Si je vous demandais de faire un pronostic, est-ce que vous pensez que les supporters donc d'un club local pourront continuer à se voir, à se reconnaître dans une équipe où il n'y a plus un seul Catalan ou à Chelsea plus un seul Anglais, ou alors est-ce que seule la victoire est jolie et donc ils s'en passeront? Et est-ce qu'en réaction, les autorités européennes sont prêtes à réglementer sur la question?
Alors, sur la deuxième aspect de votre question, sur le 6+5, il y a quand même de fortes chances à ce qu'on y arrive. Alors, effectivement, si le Barça avait gagné et le championnat et la Champions League, la fronde des supporters aurait été moins grande. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Donc, si le phénomène est général de perte d'identité, il y aura forcément, et je crois que là comme ailleurs, il y a des phénomènes un peu d'équilibre qui se trouveront. Comme aucune équipe n'est sûre de gagner, quel que soit son budget et quels que soient ses joueurs, la prudence, le fait de conserver cet attachement et en fait de conserver des recettes, parce que l'attachement des supporters, ça crée de la ferveur dans les stades, mais ça crée surtout des droits télévisés, des droits dérivés, etc., fait en sorte que les dirigeants veilleront à maintenir un certain équilibre entre eux. Ce n'est pas un hasard si dans des clubs comme Marseille ou le PSG, on réfléchit maintenant à l'identité régionale, où même Robert-Louis Dreyfus dit qu'il faudrait quand même qu'il y ait plus de Provençaux, et où les dirigeants du PSG se disent on a un bassin de recrutement, il faut favoriser. Et à Rennes, par exemple, là aussi, Rennes va être le phare des clubs bretons. Et donc, il y a ce mélange où il y aura, si je devais faire un pari, dans chaque équipe, trois cercles de joueurs régionaux, nationaux et européens.
Oui, bonsoir monsieur. Vous avez oublié de parler aussi peut-être du football total des Hollandais à la grande époque de l'Ajax avec Johan Cruyff, Nisken, Johnny Rep et compagnie. Harold Muren, Gary Muren, Serbier. Bon. Et ça m'amène à poser une question. Qu'est-ce qu'il en est des clubs formateurs par rapport à ce que vous avez dit? Parce que l'Ajax est un club qui est vachement formateur, l'Ajax d'Amsterdam. Mais il est toujours en fin de saison dévalisé de ses meilleurs joueurs. Résultat, la Hollande perd en 74 en Allemagne en finale, en 78 contre l'Argentine en finale, en demi-finale contre le Brésil. Qu'est-ce que
C'est deux choses différentes. C'est que l'équipe nationale peut très bien gagner et quand elle a perdu en 74-78, elle n'est pas dévalisée. Et le fait que les joueurs évoluent à l'étranger, l'équipe du Brésil était en finale, il y a deux ou trois joueurs seulement qui évoluent au Brésil. La France, pareil. Si on prend les quatre équipes demi-finalistes de la Coupe du Monde, les quatre étaient composées de joueurs évoluant, se frottant à l'étranger. Mais effectivement, il y a un problème de protection des clubs formateurs qui se pose pour l'Ajax, qui se pose pour Nantes, parce que à terme, s'il n'y a plus d'intérêt à former les joueurs, plus personne ne les formera. Et donc là aussi, le marché, l'ultralibéralisme montre ses limites. Si on fait un système ultralibéral, plus personne ne formera de joueurs parce qu'il n'y aura plus d'intérêt à le faire. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de régulation, d'où l'appel aux instances européennes pour réguler en ce sens.
Merci. Toute dernière question.
Oui, bonsoir. J'aime bien observer ce qui se passe dans le football parce que ça me sert de paradigme pour l'économie, en fait, en général. Et vous nous avez bien dit donc que le foot demandait maintenant des contrôles de tout ce qui se passe. Et longtemps, la France était romantique, maintenant elle est pragmatique, et elle prend de la créatine. Et je pense que ça peut servir aussi de leçon pour tout ce qui se passe dans l'économie. On apprend aux enfants à tomber dans la surface de réparation. Où est l'éthique?
Je crois que j'ai répondu à cette question.
Merci beaucoup encore, M. Boniface.